Chapitre 2. Le conseil. Décision. Le roi entra vivement et lourdement, selon son habitude. Il avait un air affairé, curieux, qui contrastait singulièrement avec la rigidité glacée du maintien de la reine. Les couleurs fraîches du roi ne l'avaient pas abandonné. Matinal, et tout fier de sa bonne santé, qu'il avait unie avec l'air du matin, il soufflait bruyamment et appuyait avec vigueur son pied sur les parquets. « Le docteur, dit-il, qu'est devenu le docteur ? Bonjour, sire. Comment allez-vous ce matin ? Êtes-vous bien fatigué ? J'ai dormi 6 heures, c'est mon lot, je vais très bien, l'esprit est net. Vous êtes un peu pâle, madame. Le docteur, on m'a dit que vous l'aviez mandé. Voici monsieur le docteur Gilbert, fit la reine en démasquant l'embrasure de la fenêtre dans laquelle le docteur s'était tapi jusqu'à ce moment. Le front du roi s'éclaircit aussitôt, puis « Ah, j'oubliais, dit-il, vous avez mandé le docteur, c'est donc que vous souffriez. » La reine rougit. « Vous rougissez ?» lui dit Louis XVI. Elle devint pourpre. « Encore quelques secrets ?» fit le roi. « Quel secret, monsieur ?» interrompit la reine avec hauteur. « Vous ne m'entendez pas, je vous dis que vous, qui avez vos médecins favoris, vous ne pouvez avoir appelé le docteur Gilbert sans le désir que je vous connais. Lequel ? De toujours me cacher quand vous souffrez. » « Ah !» fit la reine un peu remise. « Oui, continua Louis XVI, mais prenez-y garde, monsieur Gilbert est de mes confidents à moi, et si vous lui contez quelque chose, il me le rapportera. » Gilbert sourit. « Pour cela, non, sire, dit-il. « Bien, voilà que la reine corrompt mes gens. » Marie-Antoinette fit entendre un de ces petits rires étouffés qui signifie seulement que l'on veut interrompre la conversation ou que cette conversation fatigue beaucoup. Gilbert comprit, le roi ne comprit pas. « Voyons, docteur, dit-il, puisque cela divertit la reine, contez-moi ce qu'elle vous disait. » Je demandais au docteur, interrompit à son tour Marie-Antoinette, pourquoi vous l'aviez mandé d'aussi bonne heure. J'avoue en effet que sa présence à Versailles dès le matin m'intrigue et m'inquiète. « J'attendais le docteur, répliqua le roi s'assombrissant, pour causer politique avec lui. « Ah, fort bien, dit la reine, et elle s'assit pour écouter. « Venez, docteur, reprit le roi en se dirigeant vers la porte. Gilbert salua profondément la reine et se prépara à suivre Louis XVI. « Où allez-vous ? S'écria la reine, quoi, vous partez ? Nous n'avons pas à converser de choses bien gaies, madame. Autant vous épargner un souci de plus. Vous appelez souci des douleurs, s'écria majestueusement la reine. Raison de plus, ma chère. Restez, je le veux, dit-elle. Monsieur Gilbert, je suppose que vous ne me désobéirez pas. Monsieur Gilbert, fit le roi très dépité. Eh bien quoi? Monsieur Gilbert qui devait me donner un avis, qui devait causer librement avec moi, suivant sa conscience, monsieur Gilbert ne le fera plus. Pourquoi donc, fit la reine? Mais parce que vous serez là, madame. Gilbert fit un geste auquel la reine attacha tout de suite une signification importante. En quoi, dit-elle, pour l'appuyer, monsieur Gilbert risquera-t-il de me déplaire s'il parle selon sa conscience? « C'est facile à comprendre, madame, dit le roi. Vous avez votre politique à vous, elle n'est pas toujours la nôtre, en sorte que, monsieur Gilbert, vous me le dites clairement, est fort dissident avec ma politique. « Cela doit être, madame, répondit Gilbert, d'après les idées que votre majesté me connaît. Seulement, votre majesté peut être bien assurée que je dirai la vérité aussi librement devant elle qu'en présence du roi seul. » « Ah, c'est déjà quelque chose, » fit Marie-Antoinette. « La vérité n'est pas toujours bonne à dire, » se hâta de murmurer Louis XVI. « Si elle est utile, » dit Gilbert. « Ou seulement bien intentionnée, » ajouta la reine. « Pour cela, nous n'en douterons pas, » interrompit Louis XVI. « Mais si vous étiez sage, madame, vous laisseriez au docteur l'entière liberté de langage dont j'ai besoin. » Sire, répondit Gilbert, puisque la reine provoque elle-même la vérité, et puisque je sais l'esprit de sa majesté assez noble et assez puissant, pour ne pas la craindre, je préfère parler devant mes deux souverains. Sire, dit la reine, je le demande. J'ai foi dans la sagesse de votre majesté, dit Gilbert, en s'inclinant devant la reine. Il s'agit du bonheur et de la gloire de sa majesté le roi. Vous avez raison d'avoir foi, dit la reine. Commencez, monsieur. Tout cela, c'est fort beau, continua le roi, qui s'entêtait selon sa coutume. Mais enfin, la question est délicate, et je sais bien que, quant à moi, vous m'embarrasserez beaucoup. La reine ne put retenir un mouvement d'impatience. Elle se leva, puis se rassit, en plongeant son regard rapide et froid dans la pensée du docteur. Louis XVI, voyant qu'il ne restait aucun moyen d'échapper à la question ordinaire et extraordinaire, s'assit avec un gros soupir dans son fauteuil, en face de Gilbert. « De quoi s'agit-il ? » demanda la reine, après que cette sorte de conseil se fût ainsi constitué et installé. Gilbert regarda le roi une dernière fois, comme pour lui demander l'autorisation de parler sans contrainte. « Allez, mon Dieu, allez, monsieur, répliqua le roi, puisque la reine le veut. « Eh bien, madame, dit le docteur, j'instruirai en peu de mots votre majesté du but de ma visite matinale à Versailles. Je venais conseiller à sa majesté de se rendre à Paris. » Une étincelle tombant sur les 40 milliers de poudre que renfermait alors l'hôtel de ville n'eut pas produit l'explosion que ces paroles firent éclater dans le cœur de la reine. « Le roi ! À Paris ! Le roi ! Ah !» Et elle poussa un cri d'horreur qui fit tressaillir Louis XVI. « Là, fit le roi en regardant Gilbert, que vous disais-je, docteur ?» Le roi, continua la reine, le roi dans une ville en proie à la révolte, le roi au milieu des fourches, des faux, le roi parmi ces hommes qui ont massacré les Suisses, qui ont assassiné monsieur de Launay et monsieur de Flessel, le roi traversant la place de l'hôtel de ville et marchant dans le sang de ses défenseurs. Vous êtes un insensé, monsieur, pour avoir parlé ainsi. Oui, je vous le répète, vous êtes un insensé. Gilbert baissa les yeux, comme un homme que le respect contient, mais il ne répondit aucune parole. Le roi, remué jusqu'au fond de l'âme, se retourna sur son fauteuil comme un torturé sur le grill des inquisiteurs. « Est-il possible, poursuivit la reine, qu'une pareille idée se soit logée dans une tête intelligente, dans un cœur français ? Quoi, monsieur, vous ne savez donc pas que vous parlez au successeur de Saint-Louis, à l'arrière-petit-fils de Louis XIV ? Le roi battait le tapis du pied. « Je ne suppose pas, poursuivit encore la reine, que vous désiriez enlever au roi le secours de ses gardes et de son armée, que vous cherchiez à le tirer de son palais, qui est une forteresse, pour l'exposer seul et nu à ses ennemis acharnés. Vous n'avez pas le désir de faire assassiner le roi, n'est-ce pas, monsieur Gilbert ? Si je croyais que votre majesté eût un instant l'idée que je sois capable d'une telle trahison, je ne serais pas un insensé, je me regarderais comme un misérable. Mais, Dieu merci, madame, vous n'y croyez pas plus que moi-même. Non, je suis venu donner ce conseil à mon roi parce que je crois le conseil bon et même supérieur à tous les autres. La reine crispa ses doigts sur sa poitrine avec tant de violence qu'elle fit craquer la batiste sous sa pression. Le roi haussa les épaules avec un léger mouvement d'impatience. « Mais pour Dieu, dit-il, écoutez-le, madame, il sera toujours temps de dire non quand vous l'aurez entendu. » « Le roi a raison, madame, dit Gilbert, car ce que j'ai à dire à vos majestés, vous ne le savez point. Vous vous croyez, madame, au milieu d'une armée sûre, dévouée, prête à mourir pour vous. Erreur. Parmi les régiments français, moitié conspire avec les régénérateurs pour l'idée révolutionnaire. « Monsieur, s'écria la reine, prenez garde, vous insultez l'armée. » « Tout au contraire, madame, dit Gilbert, j'en fais l'éloge. On peut respecter sa reine et se dévouer à son roi tout en aimant sa patrie et en se dévouant à sa liberté. » La reine lança sur Gilbert un regard flamboyant comme un éclair. « Monsieur, lui dit-elle, ce langage... » « Oui, ce langage vous blesse, madame, je comprends cela, car selon toute probabilité, votre majesté l'entend pour la première fois. » Il faudra bien s'y accoutumer, murmura Louis XVI, avec le bon sens résigné qui faisait sa principale force. Jamais! S'écria Marie-Antoinette, jamais! Voyons, écoutez, écoutez! S'écria le roi, je trouve ce que dit le docteur plein de raison. La reine se rassit, frémissante. Gilbert continua. Je disais donc, madame, que j'ai vu Paris, moi, et que vous n'avez même pas vu Versailles. Savez-vous ce que veut faire en ce moment Paris? Non, dit le roi, inquiet. Il ne veut pas prendre une seconde fois la Bastille, peut-être, dit la reine avec mépris. Assurément non, madame, continua Gilbert, mais Paris sait qu'il y a une autre forteresse entre le peuple et son roi. Paris se propose de réunir les députés des 48 districts qui le composent et d'envoyer ses députés à Versailles. Qu'ils y viennent, qu'ils y viennent, s'écria la reine avec une farouche joie. Oh, ils y seront bien reçus. Attendez, madame, répondit Gilbert, et prenez garde, ces députés ne viendront pas seuls. Et avec qui viendront-ils? Ils viendront appuyés de 20 000 hommes de garde nationale. De garde nationale, dit la reine. Qu'est-ce que cela? Ah, madame, ne parlez pas légèrement de cette institution. Elle deviendra un jour une puissance. Elle lira et délira. 20 000 hommes, s'écria le roi. Hey, monsieur, reprit à son tour la reine, vous avez ici 10 000 hommes qui valent 100 000 révoltés. Appelez-les, appelez-les, vous dis-je. Les 20 000 scélérats trouveront ici leur châtiment et l'exemple dont a besoin toute cette fange révolutionnaire que je balayerai, moi, en 8 jours, si l'on m'écoutait seulement 1 heure. Gilbert secoua tristement la tête. « Oh, madame, dit-il, comme vous vous trompez, ou plutôt, comment vous a trompé ? Hélas, hélas, y songez-vous, la guerre civile provoquée par une reine, une seule l'a faite, et elle a emporté avec elle au tombeau l'épithète terrible d'étrangère. « Provoquée par moi, monsieur ? Comment entendez-vous cela ? Est-ce moi qui ai tiré sur la Bastille, sans provocation ?» Eh, madame, dit le roi, au lieu de consulter la violence, écoutez d'abord la raison. » La faiblesse. Voyons, Antoinette, écoutez, dit le roi sévèrement, ce n'est pas une mince affaire que l'arrivée de 20 000 hommes qu'il faudra faire mitrailler ici. Et puis, se retournant vers Gilbert, continuez, monsieur, dit-il, continuez. Toutes ces haines qui s'échauffent par l'éloignement, toutes ces fanfaronnades qui deviennent du courage à l'occasion, tout ce pêle-mêle d'une bataille dont l'issue est incertaine, épargnez-le au roi et à vous-même, madame, dit le docteur. Vous pouvez par la douceur dissiper cette arrivée que vos violences accroîtront peut-être. La foule veut venir au roi, prévenons-la, laissez le roi aller à la foule, laissez-le, environné qu'il est aujourd'hui de son armée, faire preuve aujourd'hui d'audace et d'esprit politique. Ces 20 000 hommes dont nous parlons pourraient peut-être conquérir le roi. Laissez le roi seul aller conquérir les 20 000 hommes, car ces 20 000 hommes, madame, c'est le peuple. Le roi ne put s'empêcher de faire un signe d'assentiment que Marie-Antoinette saisit au passage. « Malheureux, dit-elle à Gilbert, mais vous ne savez donc pas ce que voudra dire la présence du roi à Paris dans les conditions que vous demandez. Parlez, madame. » Cela veut dire, j'approuve, cela veut dire, vous avez bien fait de tuer mes Suisses, cela veut dire, vous avez bien fait de massacrer mes officiers, de mettre à feu et à sang ma belle capitale, vous avez bien fait de me détrôner ainsi, enfin, merci messieurs, merci. Et un sourire dédaigneux passa sur les lèvres de Marie-Antoinette. Non, madame, dit Gilbert, votre majesté se trompe. Monsieur, cela voudra dire, il y a eu quelque justice dans la douleur du peuple, je viens pardonner, c'est moi qui suis le chef et le roi, c'est moi qui suis à la tête de la Révolution française, comme jadis Henri III s'est mis à la tête de la Ligue. Vos généraux sont mes officiers, vos gardes nationaux mes soldats, vos magistrats mes gens d'affaires. Au lieu de me pousser, suivez-moi si vous le pouvez. La grandeur de mon pas prouvera encore une fois que je suis le roi de France, le successeur de Charlemagne. Tu as raison, fit tristement le roi. Oh, s'écria la reine, sire, par grâce, n'écoutez pas cet homme est votre ennemi. Madame, fit Gilbert, voilà sa majesté qui vous dira elle-même ce qu'elle pense de mes paroles. Je pense, monsieur, dit le roi, que vous êtes jusqu'ici le seul qui ayez osé me dire la vérité.
La vérité! S'écria la reine. Oh, que me dites-vous là, grand Dieu?
Oui, madame, répondit Gilbert, et croyez-le bien, la vérité dans ce moment est le seul flambeau qui puisse empêcher de rouler dans l'abîme le trône et la royauté. Et en disant ces paroles, Gilbert s'inclina humblement jusqu'aux genoux de Marie-Antoinette. Pour la première fois, la reine parut profondément touchée. Était-ce du raisonnement, était-ce de l'humilité du docteur? D'ailleurs, le roi s'était levé d'un air décidé. Il songeait à l'exécution. Cependant, par cette habitude qu'il avait de ne rien faire sans consulter la reine, « Madame, lui dit-il, approuvez-vous ? »
« Il le faut bien, monsieur, répondit Marie-Antoinette.
« Je ne vous demande pas l'abnégation, madame, dit le roi avec impatience.
« Que demandez-vous alors ?
Je vous demande une conviction qui fortifie la mienne. »«
Vous me demandez une conviction ?
Oui.
Non, si ce n'est que cela, je suis convaincu, monsieur.
De quoi ?
Que le moment est arrivé qui va faire de la monarchie l'état le plus déplorable et le plus avilissant qui existe au monde.
Oh, dit le roi, vous exagérez. Déplorable, je le veux bien, mais avilissant, c'est impossible.
Monsieur, il vous a été légué un sombre héritage par les rois, vos aïeux, fit tristement Marie-Antoinette.
« Oui, dit Louis XVI, un héritage que j'ai la douleur de vous faire partager, madame.
« Veuillez permettre, sire, repartit Gilbert, qui s'apitoyait au fond du cœur sur la profonde infortune de ses souverains déchus.
Je ne crois pas qu'il y ait lieu, pour votre majesté, de voir l'avenir si effrayant qu'elle le dit. Une monarchie despotique a cessé, un empire constitutionnel commence.
Hey, « Monsieur, dit le roi, suis-je donc l'homme qu'il faut pour fonder un pareil empire en France ?»«
Hey, pourquoi non, sire ? Fit la reine un peu réconfortée par les paroles de Gilbert.
« Madame, reprit le roi, je suis un homme de bon sens et un homme savant. Je vois clair au lieu de chercher à voir trouble, et je sais précisément tout ce que je n'ai pas besoin de savoir pour administrer ce pays. »
Du jour où l'on me précipite du haut de l'inviolabilité des princes absolus, du jour où on laisse à découvert en moi l'homme simple, je perds toute la force factice qui seule était nécessaire au gouvernement de la France, puisqu'à bien dire, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV se sont parfaitement soutenus grâce à cette force factice. Que faut-il aux Français aujourd'hui ?
Un maître, je ne me sens capable que d'être un père.
Que faut-il aux révolutionnaires ?
Un glaive, je ne me sens pas la force de frapper.
« Vous ne vous sentez pas la force de frapper, s'écria la reine, de frapper des gens qui enlèvent les biens de vos enfants, qui veulent briser sur votre front et les uns après les autres tous les fleurons de la couronne de France. »
« Que répondrai-je ? Dit Louis XVI avec calme. Répondrai-je non ? Je soulèverai encore chez vous des orages qui me gênent dans la vie.
Vous savez haïr, vous, oh, tant mieux pour vous. Vous savez même être injuste.
Je ne vous le reproche pas. C'est une immense qualité chez les dominateurs.
Me trouveriez-vous injuste envers la Révolution, par hasard ? Dites.
Ma foi, oui.
Vous dites oui, sire ? Vous dites oui ?
Si vous étiez simple citoyenne, ma chère Antoinette, vous ne parleriez pas comme vous faites.
Je ne le suis pas.
« Voilà bien pourquoi je vous excuse, mais cela ne veut pas dire que je vous approuve.
Non, madame, non. Résignez-vous. Nous sommes venus au trône de France dans un moment de tourmente. Il nous faudrait la force de pousser en avant ce char armé de faux qu'on appelle la Révolution, et la force nous manque.
« Tant pis, s'écria Marie-Antoinette, car c'est sur nos enfants qu'elle passera.
« Hélas, je le sais, mais enfin, nous ne le pousserons pas. »
« Nous le ferons reculer, sire. »«
Oh, fit Gilbert avec un accent profond, prenez garde, madame, en reculant, il vous écrasera. »«
Monsieur, dit la reine avec impatience, je remarque que vous poussez loin la franchise de vos conseils. »«
Je me tairai, madame. » »«
Eh, mon Dieu, laissez-le dire, fit le roi. » Ce qu'il vous annonce là, s'il ne l'a pas lu dans les 20 feuilles qui le disent depuis 8 jours, c'est qu'il n'a pas voulu le lire. Sachez lui gré au moins de ne pas envelopper d'amertume la vérité de sa parole.
Marie-Antoinette se tut.
Et puis, après un soupir douloureux, Je me résume, me dit-elle, ou plutôt je me répète. Aller à Paris de votre propre mouvement, c'est sanctionner tout ce qui s'est fait. Oh, fit le roi, je le sais bien. C'est humilier, c'est renier votre armée qui s'apprêtait à vous défendre.
C'est épargner le sang français, dit le docteur. C'est déclarer désormais que l'émeute et la violence pourront imprimer aux volontés du roi telle direction qui conviendra aux émeutiers et aux traîtres. Madame, je crois que vous avez eu la bonté d'avouer tout à l'heure que j'avais eu le bonheur de vous convaincre.
Oui, tout à l'heure, je l'avoue, un coin du voile s'est levé devant moi. Maintenant, oh monsieur, maintenant je redeviens aveugle, comme vous dites, et j'aime mieux voir au-dedans de moi-même les splendeurs auxquelles m'ont accoutumé l'éducation, la tradition, l'histoire. J'aime mieux me voir toujours reine que de me sentir une mauvaise mère pour ce peuple qui m'outrage et qui me hait.
Antoinette, Antoinette, dit Louis XVI, effrayé de la pâleur subite qui venait d'envahir les joues de la reine et qui n'était autre chose que le présage d'une violente tempête de colère.
Oh, non, non, sire, je parlerai, répondit la reine.
Faites attention, madame. Et du coin de l'œil, le roi montrait le docteur à Marie-Antoinette.
Monsieur, s'écria la reine, c'est tout ce que je vais dire. Il sait même tout ce que je pense, ajouta-t-elle, avec un souvenir amer de la scène qui venait d'avoir lieu entre elle et Gilbert. Aussi, pourquoi me contiendrais-je? Monsieur, d'ailleurs, a été pris pour nous, pour confident, et je ne sais pourquoi je redouterais quelque chose. Je sais qu'on vous emporte, sire, je sais qu'on vous entraîne, pareil au malheureux prince de mes chères ballades allemandes.
Où allez-vous? Je n'en sais rien, mais vous allez, d'où vous ne reviendrez jamais.
Et non, madame, je vais tout bonnement à Paris, répondit Louis XVI.
Marie-Antoinette haussa les épaules.
Me croyez-vous folle, dit-elle, d'une voix sourdement irritée. Vous allez à Paris, bien. Mais qui vous dit que Paris n'est pas ce gouffre que je ne vois pas, mais que je devine? Pourquoi, dans le tumulte qui se fera nécessairement autour de vous, pourquoi ne vous tuerait-on point? Qui sait d'où vient une balle perdue? Qui sait, parmi 100 000 points menaçants, quel est celui qui a poussé le couteau?
Oh, de ce côté-là, madame, ne craignez rien, il m'aime, s'écria le roi.
Oh, ne me dites pas cela, vous feriez pitié, sire, ils vous aiment, et ils tuent, ils égorgent, ils massacrent ceux qui vous représentent sur la terre, vous, un roi, vous, l'image de Dieu.
Eh bien, le gouverneur de la Bastille, c'était votre représentant, c'était l'image du roi.
Croyez-le bien, je ne me ferai pas taxer d'exagération. S'ils ont tué de Launay, ce brave et fidèle serviteur, ils vous eussent tué, sire, s'ils vous eussent tenu à sa place, et cela bien plus facilement que lui, car ils vous connaissent, et ils savent qu'au lieu de vous défendre, vous eussiez tendu le flanc.
Concluez, dit le roi.
Mais je croyais avoir conclu, sire.
Ils me tueront?
Oui, sire.
Eh bien,
et mes enfants? S'écria la reine.
Gilbert pensa qu'il était temps d'intervenir. Madame, me dit-il, le roi sera tellement respecté à Paris, et sa présence y causera de tels transports, que si j'ai une crainte, ce n'est pas pour le roi, mais pour les fanatiques capables de se faire écraser sous les pieds de ses chevaux, comme les fakirs hindous sous les roues du char de leur idole.
Oh, monsieur, monsieur, s'écria Marie-Antoinette,
cette marche à Paris sera un triomphe, madame.
Mais, sire, vous ne répondez pas?
C'est que je suis un peu de l'avis du docteur, madame.
Vous êtes impatient, n'est-ce pas, s'écria la reine, de jouir de ce triomphe.
Le roi, en ce cas, aurait raison, et cette impatience prouverait le sens profondément droit avec lequel sa majesté juge les hommes et les choses. Plus sa majesté se hâtera, plus le triomphe sera grand.
Vous croyez cela, monsieur?
J'en suis sûr, car le roi, en tardant, peut perdre tout le bénéfice de sa spontanéité. On peut prendre, songez-y bien, madame, on peut prendre ailleurs l'initiative d'une demande qui alors changerait, aux yeux des Parisiens, la position de sa majesté et la ferait en quelque sorte obtempérer à un ordre.
Voyez-vous, s'écria la reine,
le docteur à vous, on vous ordonnerait.
Oh, sire, mais voyez donc.
Le docteur ne dit pas qu'on m'ait ordonné, madame.
Patience, patience, perdez le temps, sire, et la demande, ou plutôt l'ordre arrivera. Gilbert crispa la lèvre légèrement avec un sentiment de contrariété que la reine saisit aussitôt, si rapidement qu'il eût passé sur son visage. « Qu'ai-je dit ? » murmura-t-elle, « pauvre folle que je suis, j'ai parlé contre moi-même. »« En quoi, madame ? » demanda le roi. « En ceci que, par un délai, je vous ferai perdre le bénéfice de votre initiative et que, cependant, j'ai à vous demander un délai. »« Ah, madame, madame, demandez tout, exigez tout, acceptez cela. » « Antoinette, dit le roi en secouant la tête, vous avez juré de me perdre. »« Oh, sire, fit la reine avec un accent de reproche qui décela toutes les angoisses de son cœur, pouvez-vous bien me parler ainsi ?»« Pourquoi essayer de retarder ce voyage alors ?» demanda le roi. « Songez-y, madame, en pareille circonstance, l'opportunité, c'est tout. Songez quel poids ont les heures qui passent en des moments pareils, quand tout un peuple furieux les compte au fur et à mesure qu'elles sonnent. Pas aujourd'hui, monsieur Gilbert, demain, sire, oh, demain, accordez-moi jusqu'à demain, et je vous jure que je ne m'opposerai plus à ce voyage. » « Un jour perdu, » murmura le roi. « 24 longues heures, » dit Gilbert, « songez-y, songez-y, madame. »« Sire, il le faut, » dit la reine suppliante. « Une raison, au moins, » dit le roi. « Rien que mon désespoir, sire, rien que mes larmes, rien que mes supplications. »« Mais d'ici à demain, qu'arrivera-t-il, le sait-on, » dit le roi, tout bouleversé à la vue du désespoir de la reine. « Que voulez-vous qu'il arrive ?» demanda la reine en regardant Gilbert d'un air suppliant. « Oh, dit Gilbert, là-bas, rien encore. Un espoir, fût-il vague comme un nuage, suffira pour les faire attendre jusqu'à demain. Mais c'est ici, n'est-ce pas ?» dit le roi. « Oui, sire, c'est ici. C'est l'assemblée. » Gilbert fit un signe de tête. « L'assemblée, continua le roi, avec les hommes comme M. Mounier, M. Mirabeau, M. Sieyès, est capable de m'envoyer quelque adresse qui m'ôtera tout le bénéfice de ma bonne volonté. »« Eh bien, alors, s'écria la reine avec une sombre fureur, tant mieux, parce qu'alors vous refuserez, parce qu'alors vous garderez votre dignité de roi, parce que vous n'irez pas à Paris, et que s'il faut soutenir ici la guerre, eh bien, nous la soutiendrons. » Parce que s'il faut mourir ici, eh bien, nous y mourrons, mais en gens illustres et intacts que nous sommes, en rois, en maîtres, en chrétiens qui se fient au Dieu duquel ils tiennent la couronne. » En voyant cette exaltation fiévreuse de la reine, Louis XVI comprit qu'il n'avait en ce moment rien d'autre chose à faire que d'y céder. Il fit un signe à Gilbert et, s'avançant vers Marie-Antoinette, dont il prit la main, « Calmez-vous, madame, il sera fait comme vous le désirez. Vous savez, chère épouse, que, pour ma vie, je ne voudrais rien faire qui vous fût désagréable, car j'ai l'affection la plus légitime pour une femme de votre mérite et surtout de votre vertu. » Et Louis XVI appuya sur ces mots avec une inexprimable noblesse, relevant ainsi de toutes ses forces la reine tant calomniée, et cela aux yeux d'un témoin capable de rapporter au besoin ce qu'il avait vu et entendu. Cette délicatesse toucha profondément Marie-Antoinette, qui, serrant entre ses deux mains la main que lui tendait le roi, « Eh bien, jusqu'à demain, sire, pas plus tard, c'est le dernier délai, mais celui-là, je vous le demande en grâce à genoux, demain, à l'heure que vous voudrez, c'est moi qui vous le jure, vous partirez pour Paris. »« Prenez garde, madame, le docteur est témoin, » dit le roi en souriant. « Sire, vous ne m'avez jamais vu manquer à ma parole, » répliqua la reine. « Non, seulement j'avoue une chose, laquelle ?» C'est qu'il me tarde, résigné au fond, comme vous paraissez l'être, de savoir pourquoi vous me demandez 24 heures de retard. Attendez-vous quelques nouvelles de Paris, quelques nouvelles d'Allemagne? S'agit-il... Ne m'interrogez pas, sire. Le roi était curieux, comme Figaro était paresseux, avec délices. S'agit-il d'une arrivée de troupes, d'un renfort, d'une combinaison politique? « Sire, sire, » murmura la reine d'un ton de reproche, « s'agit-il ?»« Il ne s'agit de rien, » répondit la reine. Alors c'est un secret. Eh bien oui, secret de femme inquiète, voilà tout. Caprice, n'est-ce pas? Caprice, si vous voulez. Loi suprême. C'est vrai, que n'en est-il pas en politique comme en philosophie? Que n'est-il pas permis aux rois d'ériger leurs caprices politiques en suprême loi? On y viendra, soyez tranquille. Quant à moi, c'est déjà fait, dit le roi en plaisantant. Ainsi, à demain. À demain, reprit tristement la reine. Gardez-vous le docteur, madame? Demanda le roi. Oh, non, non, dit la reine avec une sorte de vivacité qui fit sourire Gilbert. Je l'emmènerai donc. Gilbert s'inclina une troisième fois devant Marie-Antoinette, et qui cette fois lui rendit son salut plutôt en femme qu'en reine. Puis le roi, s'acheminant vers la porte, il suivit le roi. « Il me semble, dit le roi en traversant la galerie, que vous êtes bien avec la reine, monsieur Gilbert. »« Sire, répondit le docteur, c'est une faveur dont je suis redevable à votre majesté. » « Vive le roi !» s'écrièrent les courtisans, déjà affluents dans les antichambres. « Vive le roi !» répéta dans la cour une foule d'officiers et de soldats étrangers qui se pressaient aux portes du palais. Ces acclamations, se prolongeant et grossissant, firent au cœur de Louis XVI une joie que jamais peut-être il n'avait sentie en des occasions si nombreuses cependant. Quant à la reine, assise comme elle était restée près de la fenêtre où elle venait de passer de si terribles instants, lorsqu'elle entendit les cris de dévouement et d'amour qui accueillaient le roi sur son passage et qui s'en allaient mourir au loin sous les portiques et au plus épais des ombrages, « Vive le roi, dit-elle, oh oui, vive le roi, il vivra le roi, et cela malgré toi, infâme Paris, gouffre odieux, abîme sanglant, tu n'engloutiras pas cette victime, je te l'arracherai, moi, et cela, tiens, avec ce bras si faible, si maigre, qui te menace en ce moment, et te voue à l'exécration du monde et à la vengeance de Dieu. » Et, disant ces mots avec une violence de haine qui eût effrayé les plus furieux amis de la Révolution, s'il leur eût été donné de voir et d'entendre, la reine étendit vers bras son bras faible et resplendissant sous la dentelle comme une épée qui jaillit de son fourreau. Puis elle appela Madame Campan, celle de ses femmes en laquelle elle avait le plus de confiance, et s'enferma dans son cabinet en consignant la porte pour tout le monde.